Les hommes aux semelles de vent, une émission d'Odémilie Judaïque. Aujourd'hui, le grand dérangement des Acadiens. Au début du XVIe siècle, sur les côtes de l'actuel Canada, quand les premiers explorateurs français longent le rivage de Terre-Neuve, ils croient y reconnaître l'Arcadie, ce paradis terrestre décrit par les Grecs anciens. Ils décident donc de lui donner le nom d'Acadie. Mais comme Adam et Ève furent chassés du paradis, les Acadiens, eux, furent contraints à l'exil par les Britanniques, qui entamaient alors la colonisation de toute l'Amérique du Nord. L'Acadie historique cessera officiellement d'exister en 1763 et sera rebaptisée Nouvelle-Écosse. Pour les Acadiens dispersés aux quatre vents, cet épisode traumatique prendra pudiquement le nom de Grand Dérangement et servira de socle commun à la naissance d'une identité et d'une culture acadienne forte. Désormais, ils sont 3,5 millions à vivre à cheval sur le Canada, les États-Unis et la France. Et ils sont fiers de former une nation sans État et surtout sans frontières. Alors qu'ils célébreront demain la fête nationale de l'Acadie, Jean-François Mouhot, historien, retrace pour nous le long chemin des Acadiens.
Écoutez le récit que les bois d'alentour et l'océan plaintif redisent tour à tour. Écoutez une histoire aussi belle qu'ancienne. Une histoire d'amour de la terre acadienne. Sous le ciel d'Acadie, au fond d'un joli val, on aperçoit encore, paisible, retiré et loin de ce qu'il fut, le hameau de Grand-Pré. Du côté du Levant, de beaux champs de verdure offraient à cent troupeaux une grasse pâture et donnèrent jadis au village son nom. C'est là qu'apparaissaient, charmantes et coquettes, les maisons du hameau, qui toutes étaient faites avec du bois de chêne, ou d'orme ou de noyer, comme le faisait jadis l'aïeul de Normandie.
C'est un territoire, donc l'Acadie, qui se trouve un petit peu en périphérie de la Nouvelle-France, puisque c'est cette péninsule, donc c'est sur l'actuelle Nouvelle-Écosse, qui est donc une province canadienne actuelle. Donc c'est une sorte d'aile de papillon qui s'étend au large du golfe du Saint-Laurent et au nord de la côte du Maine et des 13 colonies britanniques de l'époque. Donc c'est un territoire qui se trouve sur le passage des navires britanniques et qui se trouve beaucoup plus exposé que la Nouvelle-France, justement aux raids et aux occupations britanniques. Donc le territoire change une multitude de fois de puissance tutélaire entre la France et l'Angleterre tout au cours du XVIIe siècle. Mais ça a relativement peu d'impact sur la population qui, elle, est en majorité originaire de l'ouest de la France et qui est établie en Acadie donc à partir de 1632. Et dont la population va augmenter jusqu'à atteindre environ 14 000 personnes au moment de la déportation.
Dans les beaux soirs d'été, lorsque l'herbe du champ exhalait son arôme et tremblait à la brise, sur le seuil de la porte, avec leurs jupes grises, leurs blanches capelines et leurs mantelets noirs, les femmes du hameau venaient gaiement s'asseoir et filaient leurs quenouilles. Et les brunes fillettes unissaient leurs chansons au bruit clair des navettes, tournant sur les métiers leurs essieux de roseaux, au joyeux ronflement du rapide fuseau. Bientôt, les laboureurs revenant de l'ouvrage, à l'étable menaient leur pesant attelage. Et par-dessus les toits et les monts d'alentour, on voyait la fumée en colonnes bleuâtres comme des flots d'encens s'échappaient de ces âtres, où l'on goûtait la paix, le plus divin des biens. Ainsi vivaient alors les simples Acadiens.
L'Acadie fait théoriquement partie de la Nouvelle-France, mais les Acadiens ont rapidement une histoire qui va être un peu divergente. On est quand même à presque 2000 km de Québec, hein. Donc il faut imaginer qu'à l'époque, c'était, encore maintenant, c'était des distances considérables. C'est une colonie qui est un peu en périphérie de la colonie principale du Canada. Et puis très rapidement, donc, on a des conflits avec l'Angleterre et les colonies anglo-britanniques au sud de l'Acadie, et qui font que la colonie passe à de plusieurs reprises aux mains des Anglais, et elle devient définitivement anglaise à partir de 1713, avec justement une spécificité là qui va se développer, qui est que les Acadiens sont à partir de 1713 et jusqu'en 1755 des citoyens britanniques, qui doivent prêter des serments d'allégeance à la couronne britannique et qui sont aussi considérés comme des sujets britanniques. Ça aura aussi des impacts, cette appartenance nationale, au moment de leur déportation. Alors, leur statut, c'est un statut de français neutre, c'est-à-dire qu'ils obtiennent, comme plus tard l'obtiendront les futurs Québécois, hein, ils obtiennent l'autorisation de rester en Acadie après le traité d'Utrecht, donc, et le changement de régime en Acadie, ils obtiennent le droit de rester sur place et de pratiquer leur religion et de pratiquer leur langue. Et ils jouissent effectivement d'un statut de neutre, c'est-à-dire qu'ils promettent de ne pas prendre les armes contre l'Angleterre en cas de conflit avec la France.
C'est ainsi que vivait en paix avec le monde, en paix avec son Dieu, dans sa terre féconde, le fermier de Grandpré. Sa joie et son appui, sa fille Évangeline, étaient auprès de lui. Le bon vieillard chantait d'un ton mélancolique des refrains de chansons, des couplets de cantiques, quand bientôt il déclara « Je n'aime point pour autre ces navires anglais mouillés près de nos côtes. Leurs énormes canons qui sont braqués sur nous ne nous annoncent point les desseins les plus doux. Mais quels sont ces desseins? Ils émanent du roi Georges, et plus d'un paysan soupçonne un coupe-gorge. Tous sont fort alarmés et se montrent craintifs. » La jeune fille répondit : de plus justes motifs ont sans doute amené ces vaisseaux sur nos rives. La pluie en Angleterre ou les chaleurs hâtives ont peut-être détruit les moissons sur les champs. Pour donner du pain à leurs petits-enfants et nourrir leurs troupeaux, les grands propriétaires viennent chercher les fruits de nos fertiles terres. » Il secoua la tête avec un air de doute et poussa un soupir. Évangeline, écoute. Déjà des paysans ont gagné les frontières. D'autres sont aux aguets sur le bord des rivières, attendant en ces lieux avec anxiété cet ordre qui demain doit être exécuté. On nous a dépouillés pour combler nos alarmes de tous nos instruments et de toutes nos armes. J'espère cependant que ce soir, la tristesse fuira loin de ce toit où la joie est maîtresse.
Ce qu'il faut dire sur les serments d'allégeance, c'est que c'est des serments qui sont courants à l'époque. C'est pas une spécificité des Acadiens de devoir prêter ce genre de serment. Mais dans le cas des Acadiens, ça pose un certain nombre de problèmes, parce que les Acadiens se réclament bons citoyens, bons sujets plutôt du roi de France quand ils écrivent aux autorités françaises, et ils se réclament loyaux aux Britanniques quand ils écrivent aux autorités britanniques, ce qui est une tactique tout à fait compréhensible, hein, mais qui permet pas de tirer des conclusions sur ce qu'ils pensent vraiment de la façon de qui ils sont, en fait. Et ceci, bien sûr, inquiète les autorités britanniques, qui n'obtiennent pas de serment d'allégeance très clair non plus, et qui savent aussi que un certain nombre d'Acadiens combattent du côté des troupes françaises. Plusieurs expéditions, tentatives de reconquête de l'Acadie échouent, mais les Acadiens prêtent des soutiens logistiques aux navires français. Et donc, tout ça amène la suspicion et une certaine inquiétude des autorités britanniques, qui par ailleurs convoitent ces territoires fertiles et riches de l'Acadie. Donc il est clair que pour les Britanniques, les Acadiens sont un danger potentiel.
Le lendemain matin, au lever du soleil, quand le bourg de Grandpré sortit de son sommeil, il sembla que le temps redoublait de vitesse, car soudain arriva l'heure de la détresse. On entendit sonner la cloche de la tour. On entendit le bruit du sonore tambour. Les soldats deux à deux des vaisseaux descendirent et tout droit à l'église à grands pas se rendirent. Un long frémissement s'empara de la foule qui bondit comme un flot que la tempête roule. L'Acadien, plein de crainte, attendit en silence. Bientôt, le commandant, avec fierté, s'avance, monte jusqu'à l'autel, se tourne et parle ainsi. Vous êtes en ce jour tous assemblés ici, comme l'a décrété Sa Majesté chrétienne. Honnêtes habitants de la terre acadienne, dois-je faire à regret ce que mon roi m'ordonne ? Je viens pour confisquer au nom de la couronne vos maisons et vos biens avec tous vos troupeaux. Vous serez transportés à bord de nos vaisseaux sur un autre rivage, où vous serez, j'espère, un peuple obéissant, généreux et prospère. À présent, du village, un grand trouble s'empare, car on sait des Anglais la conduite barbare. Alors, les yeux tout en pleurs, tremblants, épouvantés, les femmes, les enfants courent de tous côtés. Le chapelet au cou, les pauvres femmes, tour à tour, s'enfuient discrètement des hameaux d'alentour. Elles inondent de pleurs la poussière des routes, et puis de temps en temps, s'immobilisent toutes pour regarder encore une dernière fois le clocher de l'église et leur modeste toit. Un long regard d'amour sur cette noble terre dont vient de s'emparer l'égoïste Angleterre. L'injustice est partout, mais personne n'a tort. Tout le droit maintenant appartient au plus fort.
Alors la décision de déporter les Acadiens est prise en 1755. Après un refus des Acadiens de prêter un serment d'allégeance à la couronne britannique, donc la déportation est organisée très rapidement et de façon un peu chaotique. En fait, il y a eu plusieurs déportations, pas juste une. La première a commencé donc en 1755 et en fait, elle a duré jusqu'en 1762. Et donc, les Britanniques ont évacué environ 10 000 personnes. Ces 10 000 personnes, ces 10 000 exilés acadiens ont été principalement expulsés et envoyés par groupes répartis dans les colonies britanniques, les 13 colonies britanniques qui n'étaient pas encore indépendantes à l'époque. On est quelques années avant la guerre d'indépendance. Ces colons sont expulsés dans ces colonies et c'est très important de remarquer qu'ils sont expulsés dans ces colonies britanniques parce que ça met à mal la thèse, à mon sens, de l'épuration ethnique qui a été reprise récemment par plusieurs historiens. Il n'y a pas volonté de faire disparaître ces populations, il y a volonté de les disperser pour les assimiler dans le creuset anglo-saxon britannique. Parce qu'à l'époque, la population est vue comme une richesse, c'est-à-dire que il y a un certain nombre de besoins en main d'œuvre pour défricher, pour faciliter l'expansion coloniale vers l'ouest de l'Amérique. Et pour ça, on a besoin de main d'œuvre, on a besoin d'hommes. Et ces migrants sont pas du tout vus, en tout cas au départ, pas du tout vus comme un poids, mais comme des habitants qui pourront aider à contribuer à l'entreprise coloniale aux États-Unis, enfin ce qui deviendra plus tard les États-Unis. Et c'est pour ça que les Acadiens sont pas du tout renvoyés en France. Il y a d'autres raisons pratiques aussi, bien sûr. L'Angleterre est en guerre contre la France, mais on voit qu'il n'y a pas de volonté à ce moment-là de faire une épuration ethnique.
Les pauvres Acadiens défilaient deux à deux. 1000 ignobles soldats se tenant auprès d'eux et par d'horribles jurons, ces hommes insolents, des prisonniers craintifs, hâtaient les pas trop lents. L'époux désespéré parcourait la pelouse, cherchant de toutes parts sa malheureuse épouse. Les mères appelaient leurs enfants égarés et les petits-enfants allaient tout effarés, pareils à des agneaux cherchant leur tendre mère. Femme, cesse tes pleurs et tes plaintes amères, car tes pleurs seront vains et tes cris superflus. Ton enfant bien-aimé, tu ne le verras plus. On sépare en effet les femmes des maris, les frères de leurs sœurs, les pères de leurs fils. Sur le sein de sa mère, en vain, l'enfant s'attache au baiser maternel. Un matelot l'arrache et l'emporte en riant jusqu'au fond du vaisseau. Des vents impétueux dans les haubans sifflèrent. L'océan reflua. Les voiles se gonflèrent et les vaisseaux, hissant leurs brillants pavillons, ouvrirent dans les flots de bouillonnants sillons. Déjà s'étaient enfuis bien de sombres hivers. Les coteaux et les champs s'étaient souvent couverts de verdure, de fleurs et d'éclatantes neiges, depuis le jour fatal où les mains sacrilèges allumèrent le feu qui consuma grand pré. Depuis qu'à des tyrans un peuple fut livré par la haine hypocrite et par la perfidie. Depuis que loin des bords de la belle Acadie, la brise fit voguer les vaisseaux d'Albion, qui traînait en exil toute une nation.
Il y a des morts, notamment à cause d'une épidémie de variole qui éclate à peu près à ce moment-là parmi les réfugiés, qui n'est donc pas directement le fait des Anglais. Il y a des mortalités importantes, bien sûr, pendant les voyages. Les conditions de voyage sont très pénibles. Et puis, les Acadiens sont assez mal reçus aussi, il faut le dire, dans les colonies anglo-britanniques. Les 13 colonies réagissent différemment. Il y en a une colonie, notamment la Virginie, qui renvoie carrément les Acadiens, un groupe d'Acadiens, à peu près 1500 Acadiens, vers l'Angleterre. Et donc, ils n'ont pas du tout envie de devoir se retrouver avec 1600 ou 1500 bouches à nourrir, qui plus est à l'approche de l'hiver, etc. Donc, ils décident que, par défiance un petit peu aussi vis-à-vis des autorités britanniques, hein, on est quelques années avant la guerre d'indépendance, il y a déjà pas mal de tensions, ils décident donc de renvoyer tous ces Acadiens vers l'Angleterre et une grande majorité de ces Acadiens ensuite passera vers la France, hein, donc à la signature de la paix en 1763. Donc le groupe qui était parti en Virginie va séjourner en Angleterre pendant la durée de la guerre et ensuite sera rapatrié en France.
Adieu vieille forêt. Noyés dans la pénombre et drapés fièrement dans leur feuillage sombre, tes sapins résineux et tes cèdres altiers se balancent encore sur le bord des sentiers. Mais sous leurs frais ombrages et sous leurs vastes dômes, on entend murmurer un étrange idiome. On voit jouer, hélas, les fils d'un étranger.
C'est intéressant de voir chez ces migrants qui sont un petit peu une préfiguration, si vous voulez, des pieds noirs, hein, qui rentrent d'Algérie dans les années 1960 en France. C'était donc une préfiguration, en quelque sorte, de ce phénomène que les Acadiens vivent en arrivant en France, puisqu'ils sont des rapatriés de colonies qui ont été reconquises. Voilà. Et il y a environ 3500 réfugiés acadiens qui arrivent dans les ports français. Donc, sont-ils acadiens? Sont-ils français? Les historiens contemporains se posent la question et affirment haut et fort qu'ils sont acadiens. En réalité, eux ne cessent d'affirmer qu'ils sont français. On a une vision en France très positive de ces colons acadiens, pour des tas de raisons, notamment dû au fait que, bon, en arrivant en France, ils sont présentés comme ayant été des victimes de leur patriotisme, en quelque sorte, puisque c'est, les administrateurs expliquent souvent que ces Acadiens ont été expulsés du fait de leur allégeance au roi de France et à la religion catholique. Donc déjà, ils sont considérés comme des patriotes à une époque où les administrateurs se plaignent du manque de patriotisme de leurs administrés paysans, entre guillemets, lambda, en France. Donc, il y a ce côté-là. Il y a le fait que, venant d'un pays qui est réputé froid, à l'époque, il y a beaucoup de théories et de croyances sur les climats qui font que des personnes venant d'un pays froid sont réputées plus robustes, plus intelligentes. Et dans un premier temps, le gouvernement français cherche à les conserver, entre guillemets, groupés pour pouvoir ensuite les renvoyer dans les colonies. Quand l'option de les renvoyer dans les colonies paraît de plus en plus improbable, on a l'idée de les envoyer défricher des terres incultes, notamment. Et il y a toute une série de projets plus ou moins farfelus qui sont proposés aux Acadiens qui, pendant ce temps-là, végètent essentiellement dans la région de Saint-Malo, puis dans la région de Nantes, en attendant, en quelque sorte, qu'ils soient fixés sur leur sort.
Partout la solitude, au foyer comme au champ. Plus de gais laboureurs. La haine des méchants un jour les a chassés au bord d'une grève. Le sable frémissant que la brise soulève roule en noir tourbillon jusqu'au plus haut de l'air et sème sur les flots de la bruyante mer. Et de profonds soupirs s'élèvent de ces flots pour répondre, ô forêt, à tes tristes sanglots.
Ils sont accueillis comme souvent les réfugiés le sont, et y compris dans la France d'Ancien Régime, ça peut surprendre, par une administration qui commence par leur distribuer une solde, c'est-à-dire un petit pécule journalier qui leur permet de subvenir à leurs besoins immédiats. On note déjà de façon très intéressante que les problèmes un peu contemporains qu'on retrouve dans les questions autour de jusqu'à quel point la distribution de minima sociaux, on va dire, puisqu'il s'agit presque d'une préfiguration d'un minima sociaux, qui est distribué pendant très très longtemps, hein, puisque j'ai retrouvé des sources qui indiquent qu'en 1885, c'est-à-dire plus de 130 ans après, des personnes touchaient encore une solde au titre de leur statut de réfugié acadien. Alors, l'administration française, justement, se demande si la distribution de ces subsides n'est pas contre-productive et envisage à plusieurs reprises de les supprimer en disant justement que le fait que ces Acadiens touchent une solde les incite peu à travailler. Ou alors, autre reproche qui est adressé par les populations locales à ces Acadiens réfugiés, c'est qu'ils peuvent travailler comme manœuvre, ou comme disent à l'époque, ils louent leurs bras à des tarifs plus avantageux qu'eux. Donc ils font du dumping social, comme on dirait aujourd'hui. Voilà. Donc on voit ce genre de questionnement déjà dans la France d'Ancien Régime, donc c'est intéressant déjà de noter que la France d'Ancien Régime se soucie quand même de ses pauvres, un petit peu, et puis a déjà un petit peu les mêmes problématiques concernant les incitations à travailler ou pas qu'on retrouve dans le monde contemporain. Tout ça ne contribue pas à leur intégration. Le problème acadien, entre guillemets, revient régulièrement sur le tapis du ministère des colonies et de l'intérieur à Paris, à Versailles. Et c'est un problème qui perdure jusqu'en 1785, c'est-à-dire presque une trentaine d'années, où régulièrement se pose la question, ben oui, mais les Acadiens, ils sont toujours là, il faut toujours leur distribuer une solde de 6 sous par jour. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les projets d'établissement échouent les uns après les autres. Est-ce que c'est par mauvaise volonté? Il y a beaucoup d'irritation de la part de certains administrateurs qui se mettent à critiquer beaucoup les Acadiens qui ne veulent pas travailler, qui veulent, etc. Et finalement, Necker écrit une lettre tout à fait intéressante où il explique qu'il faut disperser ces Acadiens, les noyer dans la population française pour qu'ils arrêtent de causer ces problèmes en restant groupés.
Les pauvres Acadiens, sur de lointaines plages, furent disséminés comme des fruits sauvages. Ils ont erré longtemps de village en village, depuis les régions où l'impur marécage ou la tiède savane, au milieu des roseaux sous un soleil brûlant, laisse dormir leurs eaux, jusqu'à ces lacs du nord, dont les rives désertes sont de neige et de fleurs tour à tour recouvertes. Certains en Louisiane sont devenus planteurs, loin du joug odieux de leurs persécuteurs. Triste et frêle débris d'un peuple heureux naguère, aujourd'hui dispersé sur une rive étrangère.
Les Acadiens sont autorisés à revenir en Acadie à partir de 1763, mais une autorisation timide. Et de facto, quasiment aucun Acadien ne retourne en Acadie. Une grande partie des Acadiens qui ont été dispersés dans les 13 colonies rejoignent ce qui s'appelle aujourd'hui le Nouveau-Brunswick, qui donc est là où actuellement il y a la plus grande concentration d'Acadiens, environ 250 000 à 300 000 personnes d'origine acadienne qui continuent en majorité à parler français. Donc là, il y a une certaine persistance de l'identité et de la culture acadienne, et de la langue acadienne aussi. Et une partie de ces Acadiens qui ont été déportés dans les 13 colonies, rejoignent progressivement la Louisiane. Donc la Louisiane, c'est une colonie française, mais qui est peu développée par rapport à la Nouvelle-France, qui a peu d'habitants. Alors, Cajun, c'est donc un terme, une altération de Cadien. Donc, voilà, l'origine du terme vient de là. Alors, les Acadiens qui arrivent en Louisiane à partir de 1763 vont se mêler à la population française qui est déjà sur place. Ils vont aussi se mêler donc à environ 1500 Acadiens qui vont réémigrer de France en 1785 pour aller rejoindre la Louisiane. Et ils seront aussi plus tard augmentés du nombre des colons qui vont quitter Saint-Domingue, donc l'actuel Haïti, au moment de la guerre d'indépendance d'Haïti, la révolte des esclaves, qui se termine par un exode massif des planteurs et les populations d'origine européenne qui vivaient à Saint-Domingue. Donc toutes ces différentes populations d'origine française, mais qui ont des histoires et des parcours différents, se rejoignent et fondent la communauté Cajun. Enfin, Cajun, c'est un terme qui est au départ en partie connoté négativement. Cette culture, elle va perdurer jusqu'à nos jours, hein, puisqu'il y a encore une communauté Cajun avec des manifestations culturelles très marquées, une cuisine particulière qui doit plus d'ailleurs aux importations de Saint-Domingue que à la culture acadienne proprement dite.
C'est aujourd'hui le 15 août, la fête nationale des Acadiens. Comme chaque année, de nombreuses activités soulignent la fierté acadienne un peu partout dans les provinces de l'Atlantique et ailleurs. Et il y a bien sûr l'incontournable tintamarre.
Voilà de quoi sont faits les tintamarres. Une façon unique de célébrer la fête nationale des Acadiens.
Nous autres, on est fiers de notre culture, de notre langue. On aime montrer nos couleurs.
Le peuple acadien a réussi à garder sa culture. Mais aujourd'hui, il fait face à d'autres défis.
Le développement économique est certainement un de nos grands défis. L'éducation en français demeure très, très centrale. Il y en a un nouveau qui vient d'arriver, c'est l'immigration. Je pense qu'on doit se faire un devoir d'être beaucoup plus ouvert aux immigrants qui viennent et qui choisissent l'Acadie.
L'Acadie, donc effectivement, c'est un État sans nation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'État ou même de province canadienne qui s'appelle l'Acadie. Le noyau principal des descendants d'Acadiens, c'est donc un noyau qui est dans la province canadienne du Nouveau-Brunswick. Les Acadiens représentent à peu près un tiers de cette province, qui est donc la seule province officiellement bilingue du Canada. Les Acadiens sont minoritaires, y compris dans la province où ils sont majoritairement représentés. Ils n'ont pas, contrairement aux Québécois, la possibilité justement donc d'avoir un État ou une province plutôt qui s'appelle la province de l'Acadie. Ils ne sont pas non plus sur les terres historiques de l'Acadie, puisque au départ c'était la région de la Nouvelle-Écosse qui est de l'autre côté de la baie de Fundy par rapport au Nouveau-Brunswick. Par contre, ils cherchent à faire revivre leur histoire, leur identité à travers des grands rassemblements, de rassemblements mondiaux acadiens, par exemple, qui a lieu tous les quelques ans. Et ils cherchent aussi à faire vivre des liens forts entre, il y a la Louisiane, donc le Nouveau-Brunswick, la France aussi, où quelques personnes qui se retrouvent des ancêtres acadiens sont heureux de pouvoir, en quelque sorte, retrouver cette histoire qu'ils avaient oubliée ou qu'ils ne connaissaient pas. Et donc, il y a un certain nombre d'historiens ou de généalogistes français qui s'intéressent à leurs racines acadiennes et qui développent ainsi des échanges. Il y a des réseaux d'associations, Amitié acadienne et d'autres qui entretiennent le souvenir et l'histoire de cette région.
Merci à Jean-François Mouhot, docteur en histoire à l'Institut universitaire européen de Florence, qui a notamment écrit « Les réfugiés acadiens en France, l'impossible réintégration », paru en 2009 aux éditions Septentrion. Merci également à Florence Lecor pour ses lectures librement adaptées du célèbre poème « Évangeline », écrit en 1847 par Henry Longfellow et traduit par Pamphile Lemay. Les Hommes aux semelles de vent est une émission d'Odémilie Judaïque, préparée par Julie Briand, enregistrement Pascal Bénard, Pierre Mine et Didier Lorenzi. Mixage, Éric Boisset.
Tout poète j'ai rencontré, princesse m'ont fait la cour, j'ai salué mais le troubadour.
Samedi prochain, dès midi, les Hommes aux semelles de vent chemineront en compagnie des Chicanos, ces Mexicains-Américains devenus étrangers dans leur propre pays. Mais d'ici là, belle fin de journée sur France Culture.
Entends-tu le violon, timbre paillère des quatre saisons? Entends-tu le violon au pas des valses et des rigotons?
Sous l'âge, ma chanson, avec le son de ton violon. Sous l'âge, ma chanson, avec le son de ton violon. Et le désir vers un âge d'humain sans cœur, de sang-froid.